إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après avoir évoqué la naissance de Maryam عليه السلام, l'invocation de sa mère, la prise en charge de son oncle ou de son beau-frère, suivant l'avis que l'on prend, Zakariya alayhi salatu wassalam, après avoir évoqué les mérites de Maryam, qui est sans aucun doute l'une des meilleures femmes qu'ait portée cette terre, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, va évoquer les circonstances de la grossesse de Maryam. Elle tombera enceinte et enfantera Isa. Ce sont les versets 16 à 37 de la sourate numéro 19. Ibn Kathir, rahimahullah, tabarak wa ta'ala, nous dit « Allah mentionne ce récit après celui de Zakariya, qui devient ainsi une forme d'introduction et de prélude à ce récit. Il en fut de même dans sourate Ali Imran, où il regroupa les deux récits dans un seul et même contexte. Et c'est aussi le cas dans sourate Al-Anbiya, lorsqu'Allah dit tabarak wa ta'ala « وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Sourate 21, les versets 89 à 91. Zakaria, lorsqu'il implora son Seigneur, « Seigneur, ne me laisse pas seul sans descendance, tu es le meilleur des successeurs. Nous l'avons exaucé, nous lui avons donné Yahya et avons redonné la fécondité à son épouse. Ils s'empressaient de faire le bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Ils étaient humbles devant nous. Et celle-ci, en parlant de Maryam, qui a préservé sa chasteté, nous avons insufflé en elle un souffle de vie et avons fait d'elle et de son fils un miracle pour le monde. » Nous avions vu qu'à sa naissance, Maryam a été vouée par sa mère au service du temple de Beit el-Maqdis et que Zakariya alayhi salatu wassalam, le prophète de cette époque, qui était l'époux de sa sœur ou de sa tante, l'a pris en charge et lui avait aménagé un endroit noble dans le temple où personne en dehors de lui n'entrait. Nous avions également rappelé que lorsqu'elle fut plus âgée, elle s'adonna à l'adoration d'Allah d'une manière inégalée à son époque. Elle atteint un degré que même Zakariya envia, et les anges lui annoncèrent qu'Allah l'avait élu et qu'il lui accorderait un enfant pur qui serait un noble prophète, béni et soutenu par des miracles. Elle s'étonna alors d'avoir un enfant sans père car elle n'était pas mariée et qu'elle ne pouvait l'être puisque vouée au service du temple. Les anges l'informèrent qu'Allah était capable de faire ce qu'il veut. Et lorsqu'il veut une chose, il dit soit et cette chose est. Elle accepta donc la volonté de son Seigneur, se soumettant à son ordre, tout en sachant que cela sera pour elle une épreuve, car les gens la diffameront par ignorance, en s'attachant aux apparences, sans méditer ou réfléchir. Dans cette sourate, sourate numéro 19, après avoir évoqué le cas de Zakariya et celui de Yahya, Allah tabaraka wa ta'ala va évoquer le cas de Maryam. قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. Rappelle dans le livre le Coran, où le sens est rappelle dans cette sourate, le récit de Maryam lorsqu'elle s'écarta de sa famille en se dirigeant vers l'est. Elle mit entre elle et eux un voile. Maryam ne sortait du temple que lors de sa période de menstrues ou par nécessité impérieuse, comme pour chercher de l'eau ou à manger. Il a été dit aussi qu'elle sortit pour adorer Allah dans un endroit isolé à l'abri des regards des gens de sa famille. Or, un jour, tandis qu'elle était sortie pour vaquer à ses occupations, elle s'isola à l'est du temple ou à l'est de chez elle, à l'abri des regards de sa famille, et Allah, tabaraka wa ta'ala, lui envoya alors Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint Jibril, alayhi salat wa salam. فقال الله جل وعلا فتمثل لها بشرا سويا. C'est alors que se présenta à elle une personne sous la forme d'un homme parfait. Et cela afin qu'elle n'ait pas peur de lui. Et lorsqu'elle le vit, elle dit قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Je cherche refuge auprès du tout miséricordieux contre toi. Si tu es pieux, ne m'approche point. Abu al-Aliya, Rafi' ibn Mihran, a dit « Elle savait que celui qui craint Allah pouvait s'abstenir du péché en se souvenant d'Allah. » Cela rejette l'avis de ceux qui prétendent qu'il y avait parmi les enfants d'Israël à cette époque un pervers dont le nom était Taqi. C'est comme si elle disait « Si tu es cet homme-là Taqi, alors je cherche protection » auprès du tout miséricordieux contre toi. Mais cela est une parole fausse, sans aucun fondement, et compte parmi les pires propos. L'ange s'adressa à elle en disant « Innama ana rasulu rabbik » « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur », c'est-à-dire que je ne suis pas un être humain, mais un ange envoyé par Allah, tabaraka wa ta'ala. « Li'ahaba laki ghulaman zakiyya » Je t'annonce un fils pur. C'est-à-dire ici, c'est la parole que transmet Jibril à Maryam en lui disant, Allah dit, je t'annonce un fils pur. Et selon une autre lecture, afin qu'il t'annonce un fils pur. Autrement dit, lorsque l'on dit, li ahaba laki ghulaman zakiyya, c'est comme si Jibril retransmet fidèlement la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans les termes. En lui disant, je suis un messager de ton Seigneur et je t'annonce un fils pur. Ou alors, Jibril ici va informer Maryam de ce qu'a fait Allah tabaraka wa ta'ala et du choix qu'il a fait. En disant, je ne suis qu'un messager de ton Seigneur et ceci afin qu'il t'annonce un fils pur. C'est-à-dire afin qu'Allah t'annonce un fils pur. On a les deux lectures possibles. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. Elle dit comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une prostituée. C'est-à-dire je n'ai pas d'époux et je ne suis pas de celles qui s'adonnent à la prostitution. قال كذلك قال ربك هو علي هين. Jibril lui répondit. Certes, ton Seigneur en a décidé ainsi, et il a dit « cela m'est facile ». On peut le traduire autrement en disant « la chose est comme tu le dis, ô Maryam. Effectivement, tu n'es pas mariée et tu n'es pas non plus une prostituée. Mais la création d'un enfant sans père m'est chose facile. » Autrement dit, c'est comme si Jibril lui disait « la chose est comme tu le dis, entre parenthèses, ô Maryam. » Mais ton Seigneur a dit, la création d'un enfant sans père, mais chose facile. L'ange, Jibril, alayhi salatu wassalam, répondit à son étonnement de donner naissance à un enfant dans sa situation en disant, certes ton Seigneur en a décidé ainsi. C'est-à-dire qu'il a promis qu'il créerait de toi un enfant, bien que tu ne sois pas marié et que tu ne sois pas une prostituée. Cela m'est facile. Cela est aisé et simple pour lui car il est capable de réaliser ce qu'il veut. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْدِيًا afin que nous fassions de lui un signe pour les gens. C'est-à-dire, nous ferons de sa création et de cet événement une preuve de la perfection de notre capacité de créer ce que nous voulons. Allah a créé Adam sans père ni mère, de même qu'il a créé Hawa d'un homme sans femme. Il a créé Isa d'une femme sans homme. Et il a créé tous les êtres humains d'un mâle et d'une femelle. Puis il dit, et une miséricorde de notre part, c'est-à-dire, nous ferons miséricorde aux gens à travers lui, car il les appellera à Allah dans son enfance et pendant sa maturité, afin qu'ils adorent Allah, l'unique, sans lui associer qui que ce soit, et lui attribuer de compagnes, d'enfants, d'associés, d'égal, de contraires ou de semblables. وَكَانَ أَمْرًا مَقَضِيًّا, et ceci est une chose décrétée, ou une affaire décrétée. Il est possible que ce soit une parole de Jibril qui rappelle que cette décision a été prédestinée, décrétée, décidée et confirmée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est là l'avis de Muhammad ibn Ishaq qu'Ibn Jarir a adopté sans l'attribuer à aucun autre. Il est également possible que cela soit une allusion au souffle de Jibril en elle, comme Allah le dit tabaraka wa ta'ala. De même, Maryam bint Imran, qui était chaste, nous avons insufflé en elle notre esprit. De nombreux salafs ont rapporté que Jibril a soufflé dans l'ouverture de sa tunique, au niveau de son col, et que ce souffle est descendu vers son utérus et qu'elle tomba tout de suite enceinte, comme tombe enceinte la femme après un acte sexuel avec son époux. Quant à ceux qui disent qu'il souffla dans sa bouche et que ce qu'il lui disait était en fait l'esprit qui glissa en elle à travers sa bouche, cela est contraire au sens du texte coranique qui montre qu'un ange fut envoyé vers elle. Et cet ange est Jibril, alayhi salatu wassalam. Donc Jibril insuffla en elle sans viser l'utérus, mais il insuffla dans l'ouverture de sa tunique au niveau du col, ce qu'on appelle en arabe el-jayb, et c'est ce souffle qui descendit vers l'utérus. Comme Allah dit, tabaraka wa ta'ala, nous avons insufflé en elle notre esprit. Et cela montre que le souffle pénétra en elle et non dans sa bouche, comme cela est rapporté de Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, ni même dans sa poitrine, comme cela est rapporté par As-Suddi d'après certains compagnons. C'est pour cela qu'Allah dit, tabaraka wa ta'ala, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَسِيًّا. Donc, elle tomba enceinte, ce qui prouve que cette parole-là tomba dans son utérus. Ce souffle de vie tomba dans son utérus. Et elle tomba enceinte. فَحَمَلَتُهُ. Elle fut alors enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. En effet, après être tombée enceinte, Maryam s'inquiéta, car elle savait que les gens parleraient en mal d'elle. De nombreux salafs, de nombreux pieux prédécesseurs, dont Wahb ibn Munabbih, on dit que lorsque les signes de la grossesse apparurent, le premier à s'en apercevoir fut un adorateur des enfants d'Israël nommé Yusuf ibn Ya'qub al-Najjar. Yusuf ibn Ya'qub, le menuisier, qui était son cousin. Il en fut très étonné car il connaissait la piété de Maryam, sa dévotion et sa chasteté. Il la voyait enceinte alors qu'elle n'était même pas mariée. Un jour, il lui dit « Oh Maryam, existe-t-il une plante sans semence ?»« Oui, répondit-elle. Et qui a créé la première plante ?» Puis il lui demanda « Peut-on avoir des arbres sans eau ni pluie ?» Elle répondit « Oui. Et qui a créé le premier arbre »« Peut-on avoir un enfant sans père ?»« Oui, Allah a créé Adam sans père ni mère. » »« Informe-moi donc de ton cas alors. » Et Maryam lui dit alors « Allah m'a fait une bonne annonce. » إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. La famille de Imran, verset 45 et 46. Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera El-Masih. Isa ibn Maryam, illustre ici-bas comme dans l'au-delà et parmi les rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr. Il sera du nombre des vertueux. On rapporte que Zakaria l'interrogea de la même façon et qu'elle répondit de la même manière. Et Allah est plus savant. Ce récit entre Maryam et Yusuf ibn Ya'qub al-Najjar doit être pris avec des pincettes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chaîne de transmission valide et fiable qui nous montrerait l'authenticité de cette parole. Il semble que Maryam a porté son enfant pendant 9 mois. D'ailleurs, c'est un sujet de divergence chez les savants. Combien de temps garda-t-elle son enfant dans le ventre? Ibn Kathir nous dit qu'il semble que Maryam ait porté son enfant pendant 9 mois comme toutes les femmes. Et s'il en avait été autrement, cela aurait été mentionné. Toutefois, Ibn Abbas et Ikrima rapportent qu'elle le porta pendant 8 mois. On rapporte également d'Ibn Abbas qu'elle le mit au monde aussitôt qu'il fut conçu. Dès que l'ange Jibril insuffla le souffle de vie dans le col de sa tunique, et que ce souffle de vie rentra dans son utérus, c'est à ce moment-là qu'elle enfanta de Isa. Et cet avis est soutenu par l'imam al-Qurtubi qui prouve cela par le verset lui-même, lorsqu'Allah dit « Elle fut enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. » Donc, il y a la particule ici « fa ». فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Il y a la particule « fa » ici qui indique l'ordre des événements et la succession des événements. Et d'autres prétendent qu'elle ne l'a porté que 9 heures en s'appuyant sur ce même verset. Allah dit tabaraka wa ta'ala « فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Elle fut alors enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné, puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc d'un palmier. Cependant, ce qui est authentique est que les étapes se succèdent selon leur nature. Comme Allah le dit tabaraka wa ta'ala, ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Sourate 22 verset 63. Ne vois-tu pas qu'Allah a fait descendre une eau du ciel et que la terre devient alors verdoyante? De même, Allah dit تبارك وتعالى lors de la conception de l'embryon dans le ventre et dans l'utérus de la mère. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sourate 23 verset 14. Puis nous avons fait du sperme un caillot de sang. Du caillot de sang nous avons créé un embryon. Et de cet embryon nous avons créé des os et avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Or, il est connu qu'il y a un intervalle de 40 jours entre chaque étape, comme cela est rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fameux hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, dit qu'elle se retira à l'extrémité de la vallée de Bethléem, Bayt al-Lahm, afin de fuir les mauvaises langues de son peuple qui obligatoirement l'accuserait d'adultère en la voyant enceinte ou avec cet enfant. Elle continua sa route et s'éloigna de plus en plus de la ville jusqu'à ce que les douleurs de l'enfantement se firent ressentir et la poussèrent à s'appuyer sur un tronc de palmier qui se trouvait là. Ces douleurs étaient tellement intenses qu'elle dit à ce moment-là « Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya » et son lecture « Nisyam mansiya » « Malheur à moi, j'aurais préféré mourir avant cet instant et être totalement oublié, ou alors être une chose insignifiante, délaissée et oubliée. » C'est là une preuve que l'on peut souhaiter la mort dans les périodes de troubles, car elle savait que les gens l'accuseraient faussement et ne la croiraient pas lorsqu'elle viendrait avec eux, avec un bébé dans les bras, même s'il connaissait sa dévotion continue dans le temple, et qu'elle descendit d'une famille de prophètes et de religieux. Elle fut tellement soucieuse qu'elle alla jusqu'à souhaiter sa propre mort ou être totalement oubliée, c'est-à-dire n'avoir jamais existé. En effet, ce qu'a fait Maryam, alayhi salam, ici, ne contredit pas la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'a rapporté l'imam al-Bukhari sous le numéro 5671. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضغر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Que l'un d'entre vous ne se souhaite jamais la mort due à une épreuve qui l'a touché. S'il la souhaite vraiment, qu'il dise alors ô Allah, laisse-moi en vie si tu sais que cela est mieux pour moi et fais-moi mourir si tu sais que la mort est meilleure pour moi. Maryam a souhaité la mort non pas pour son propre intérêt, mais pour Allah tabaraka wa ta'ala, li wajhillahi al-karim. Et cela sous deux aspects. Le premier, elle craignit que les gens pensent du mal de sa religiosité et sa piété, ce qui pourrait l'entraîner par la suite à s'égarer et délaisser sa pratique et sa dévotion. Donc cette parole, et son souhait de mourir, fut pour Allah. La deuxième raison, le deuxième aspect, elle craignit que par cette situation, les gens la calomnient et l'accusent d'adultère, causant ainsi leur perte. Donc elle voulait préserver aussi les gens de tomber dans cette perdition. Puis Allah dit, tabaraka wa ta'ala, fanadaha min tahtiha. Et dans une autre lecture, fanadaha man tahtaha. Alors on l'appela d'au-dessous d'elle. Et dans une autre lecture, celui qui était sous elle l'appela. Il y a deux avis à ce sujet. Quel est celui qui l'a appelé? Est-ce Jibril alayhi salatu wa salam ou est-ce Isa ibn Maryam? Le premier avis est qu'il s'agissait de Jibril. C'est l'avis de l'Oufi qui rapporte cela d'Ibn Abbas. Car Ibn Abbas a dit, Isa n'a parlé qu'en présence des gens, lorsque Maryam le ramènera plus tard devant les siens. Il n'a pas parlé avant cela. C'est aussi l'avis de Saïd ibn Jubayr, le fameux élève de Abdullah ibn Abbas, de Amr ibn al-Maymoun, d'Al-Dahhak, Soudi et Qatada. Pour d'autres savants comme Mujahid al-Hassan ou ibn Zayd ou Saïd ibn Jubayr, selon un autre avis de lui, c'est bien son fils Isa qui s'adressa à elle. Et c'est là l'avis de Ibn Jarir et Tabari dans son tafsir. Que lui a dit Isa alayhi salam? Il lui a dit « Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya » « Ne t'attriste pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » As-Sari, qu'on traduira ici par une source d'eau, est ce qu'a expliqué la majorité des savants. On dit qu'il s'agissait d'une rivière et cela est rapporté dans un hadith de l'imam Tabarani, mais avec une chaîne de transmission qui est faible, comme l'a montré Ibn Jarir. Al-Hassan, Rabi' ibn Anas, ibn Aslam et d'autres ont dit que As-Sari ici désigne Isa, car le terme de Sari signifie une personne importante, une personne noble. C'est comme si Isa disait à sa mère, ne t'attriste pas, ton Seigneur a placé en dessous de toi, c'est-à-dire à tes pieds, un noble, c'est-à-dire une personne illustre qui deviendra un prophète, un grand prophète d'Allah. De même, Allah dit tabaraka wa ta'ala wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya aw tasaqat 'alayki rutban janiyya. Tire vers toi le tronc du palmier, des dattes fraîches et mûres tomberont sur toi. Wa tasaqat 'alayki, tomberont sur toi les unes après les autres de manière continue. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné, ou plutôt Isa, a mentionné la nourriture et la boisson, et c'est pourquoi elle dit « Fakuli washrabi wa qorri aina »« Mange et bois et réjouis-toi ». Certains ont dit que le tronc était sec, mort. D'autres ont dit que ce palmier était chargé de fruits. Et Allah est plus savant. Oui, il est possible que ce palmier n'avait pas encore produit de fruits, car la naissance de Isa eut lieu en hiver. Et là, je reprends les paroles de Ibn Kathir, rahmallah tabarak wa ta'ala, et dit ce qui n'est pas la saison de la floraison des dattes. C'est ce que l'on peut déduire de la parole d'Allah qui mentionne la faveur qu'il lui accorde en disant « Des dattes fraîches et mûres tomberont sur toi les unes après les autres. » Amr ibn Maymoun a dit « Il n'y a rien de meilleur pour la femme en couche que des dattes sèches et fraîches. » Puis il récita ensuite ce verset suivant. Quoi qu'il en soit, Allah tabarak wa ta'ala a voulu consoler et réjouir Maryam par la naissance de cet enfant. Isa alayhi salat wa salam lui indiqua comment se procurer de l'eau et de la nourriture à portée de main, afin qu'elle reprenne des forces et qu'elle sache qu'elle était assistée par Allah tabarak wa ta'ala. Elle savait, Maryam, qu'elle allait devoir affronter sa famille et son peuple à cause de cet enfant. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu raffermir sa foi et renforcer sa confiance en lui. Allah dit tabarak wa ta'ala, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Si tu vois quelqu'un, dis j'ai fait vœu au tout miséricordieux de ne pas parler. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Cela fait partie des propos de celui qui l'a interpellé dodo sous d'elle en disant mange et bois et réjouis-toi si tu vois quelqu'un, etc. Donc c'est soit Jibril selon l'avis des savants, soit Isa ibn Maryam selon un autre avis. En lui faisant signe, j'ai fait vœu au tout miséricordieux d'observer le silence. L'imam Qatada As-Suddi ibn Aslam ont dit qu'il faisait partie de leur législation de renoncer à la parole et la nourriture comme cela apparaît dans sa parole. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. C'est-à-dire que toute personne qui jeûnait à cette époque-là s'abstenait non seulement des nourritures et des boissons, des rapports conjugaux, mais aussi il s'abstenait de parler aux gens. Le fait de s'abstenir de parler aux gens a été abrogé par la suite dans la législation du prophète Mohammed a.s. Comme le souligne Ibn Kathir, dans notre législation, il est détestable de garder le silence du matin au soir. Après avoir repris des forces et être resté en intimité avec son enfant, elle repartit vers les siens avec son enfant, plaçant sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, se sachant assisté par Allah jalla wa ala. Il y avait quand même une appréhension chez Maryam, car elle connaissait son peuple. Elle savait que les réprimandes, les calomnies allaient être sévères, allaient être rudes, allaient être directes. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'avait préparé à cela. C'est ce que nous verrons, inshallah tabaraka wa ta'ala, dans le prochain cours. Nasallahu jalla wa ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yarda, wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.